je vais vous parler du tantra tel que je le présente, tel que moi je l'anime depuis environ 13 ans. J'ai envie de commencer par simplement quatre mots que vous avez certainement dû déjà entendre, qui résument souvent bien le tantra. Soyez détendu et naturel. Alors, c'est une phrase qui a l'air simple, courte, et c'est un précepte tantrique qui a été donné il y a 1000 ans par un maître. Il s'appelait Tilopa. Et chaque fois qu'on demandait à ce maître, « Maître, enseigne-nous le tantra », il ne répondait que cette phrase-là. Invariablement, il s'arrêtait là. Donc, c'est un précepte qui est assez puissant, hein, puisque qu'est-ce qui nous empêche d'être détendu réellement dans notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche d'être connecté à notre vraie nature? Les endroits où on fait semblant, les endroits où on est tellement tendu qu'on n'arrive pas à se connecter à nous-mêmes. Voilà, lui, il parlait de ça. Hein. Détendez-vous, retrouvez votre nature, il n'y a rien besoin d'autre. Alors, d'ores et déjà, je vais dire certaines choses ce soir. Ce ne sont pas des vérités, hein, mais c'est ma vérité. Donc, vous avez le droit de penser autrement, et vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de poser des questions si cette vérité-là, pour vous, elle n'est pas claire, ou si ce n'est pas la vôtre. Hein. Tout va bien, tout va bien. Donc, que ce soit au milieu de ma présentation ou après, vous pouvez lever la main quand vous voulez. Si ça nécessite d'être clarifié tout de suite, bah, faites-le. Alors, moi, je suis Avi Fedida. J'ai commencé mon expérience en tantra d'une manière extrêmement spécifique, extrêmement particulière, je dirais initiatique. Il y a 13 ans, j'ai fait un premier groupe de tantra. Et dans ce groupe, je vais le faire court, hein, parce que c'est pas l'essentiel quand même. Dans ce groupe, on m'a demandé de choisir une femme pour faire un exercice. J'ai choisi une femme et cette femme a dit non. Alors, ce qui était étonnant, c'est que ce jour-là, j'en ai pas fait une catastrophe, je suis allé en voir une autre et elle m'a dit oui, on a fait l'exercice ensemble. Quelques temps après, quelques heures après, je n'arrive plus à me rappeler, il s'est passé une bascule dans ma tête. Je me suis dit, tiens, c'est pas catastrophique, on me dit non, puis je vais voir quelqu'un d'autre. Je suis peut-être libre après tout, là, ouais, j'étais peut-être libre. Et à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose d'assez bizarre, une sorte d'expansion de ma conscience. Je suis entré dans mon féminin à 100%. Ma vie a changé du tout au tout et j'ai connu une sorte d'extase, un bonheur qui a duré 3 mois. C'était comme si il y avait eu une porte qui s'était ouverte et j'ai trouvé le féminin en moi, mais comme une révélation et d'un seul coup. Et après j'ai compris que c'était mon premier stage de tantra, que l'univers, entre guillemets l'univers, hein, cette synchronicité, pour ceux qui ne croient pas aux coïncidences, m'a dit « Tu veux connaître le tantra? Tiens, voilà, goûte le tantra. » Et puis maintenant, va l'enseigner. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'enseigner. Voilà, donc dans le tantra, les femmes ont le droit de dire non, les hommes ont le droit de dire non. Vous voyez, ça peut nous faire vivre des expériences assez extraordinaires. Alors, je peux aussi dire, avant de vous présenter ce qu'est le tantra, je peux aussi vous dire... qu'est-ce que n'est pas le tantra? Parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas le tantra aujourd'hui, mais qui sont présentées comme étant le tantra, que peut-être c'est intéressant de tout de suite écarter hein, ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup d'idées préconçues à propos du tantra qui se véhiculent, que le tantra traite de sexualité, c'est faux. Hein. Que le tantra ne se pratique qu'en couple, c'est faux. Et que le tantra, c'est le massage tantrique, c'est faux aussi. Alors, il y a une part de vérité dans ces choses-là, c'est-à-dire que la sexualité, l'énergie sexuelle, on l'inclut, mais comme une part de notre vivant, mais ce n'est pas un but, hein, c'est juste qu'on ne la relègue pas à l'état de tabou ou de choses qu'on n'honore pas. Le tantra se pratique en couple, le tantra se pratique tout seul. En vérité, c'est une technique pour étendre sa conscience, donc c'est toujours individuel la conscience, mais ça peut s'appliquer en couple bien sûr. Et puis les massages tantriques ne couvrent qu'une infime partie de ce qu'on fait dans le tantra. Donc si vous connaissez le massage tantrique, vous avez abordé une petite partie. Le tantra traite principalement de conscience, et tout ce qu'on fait, énergie sexuelle, massage, toucher, méditation, ça sert à développer la conscience. Donc ça, je vais en parler plus longuement. Hein. Je vais vous dire, avant de commencer vraiment, comment moi j'organise cette année-là. Hein. Il y a des soirées d'initiation pour découvrir le tantra. Il y en a 9 réparties dans l'année. Donc ça va assez doucement. Hein. Ça permet d'avoir une idée de ce que c'est. C'est soit le jeudi à Paris 20e, soit le vendredi ici dans cette pièce. C'est 3 heures ou 4 heures. C'est vraiment, je dirais, assez soft, hein, pour goûter un peu à cet espace de liberté. Il y a aussi une soirée de Noël tantrique. Alors Noël tantrique, c'est pour ceux qui n'ont pas avec qui le fêter ou qui ne veulent plus le fêter de cette manière-là. Donc on se retrouve comme une grande famille ici. On se fait des cadeaux, on fait un beau repas. Donc c'est une soirée basée sur l'espace du cœur entièrement. Après, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, il y a 5 après-midi soirée tantra, donc 15h, 21h. Donc on élargit un peu le champ des expériences. Il y a 3 journées complètes. Alors là, on plonge un peu plus profondément. C'est généralement de 10h à 21h ou de 10h à 23h en fonction des journées. Il y a 2 week-ends complets qui se passent ici, résidentiels, où on dort sur place. Donc c'est une plongée dans l'intimité. On mange ici, on dort ici. Ça commence à 10h le samedi et ça se termine à 20h le dimanche. Il y a aussi, pour aller encore plus loin, un stage de 3 jours ici. Pareil, samedi, dimanche, lundi, c'est la même formule. L'hébergement est inclus, hein, dedans, et puis c'est autogéré au niveau de la nourriture. Il n'y a pas de traiteur, c'est chacun amène une partie des repas. Ensuite, ce qui se passe sur 3 jours aussi, en fin d'année, ce sera un réveillon tantrique. Donc là, on fait le passage 2013-2014 d'une manière tantrique. Hein, 3 jours ensemble, avec une soirée festive le 31, et on le fait dans cette liberté que le tantra peut nous enseigner. Et puis le grand bain, c'est un stage de 5 jours en été dans le Jura, dans un très beau château. Donc on commence au niveau débutant et puis on peut finir au niveau avancé dans ces stages-là, en fonction des groupes. Alors en plus de ça, il y a 3 stages qui sont destinés aux couples, où il faut venir en couple, hein, mais à ce moment-là, on travaille essentiellement sur le relationnel et sur la sexualité sacrée. Donc en 2 mots, c'est comment mettre de la conscience dans l'acte sexuel, hein, pour qu'il soit sacré, qu'il honore l'un et l'autre. Et puis une nouveauté cette année, il y a une formation tantra personnelle de 11 jours répartie en 4 modules. Donc il y a 2 week-ends, puis une fois 3 jours, et puis une fois 4 jours. Donc ça, c'est un stage qui est fermé. À partir du 2e groupe, vous aurez toujours les mêmes participants, hein, jusqu'à la fin. Ce n'est pas une formation pour devenir animateur de tantra, c'est une formation personnelle, c'est pour vous. C'est pour plonger dans l'esprit du tantra, vous familiariser et aller profondément dans l'enseignement tantrique avec des gens qui ont choisi la même approche, le même engagement que vous. Il n'y a aucun niveau prérequis, hein. Vous pouvez être débutant, mais je demande quand même un entretien pour ceux qui s'inscrivent au téléphone. Donc tout ça, ça vous indique un peu la progressivité qui peut se mettre en place quand vous commencez par une soirée d'initiation, vous continuez par une après-midi, et vous pouvez aller au rythme que vous voulez, tout est parfait tout le temps. Vous pouvez faire plusieurs soirées avant de vous dire, tiens, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait une journée complète, etc. Alors, je vais vous parler brièvement des origines du tantra, parce que c'est pas tellement connu. Le tantra, à l'origine, vient d'un texte qui est plusieurs fois millénaire. Il s'appelle Vijnana Bhairava Tantra. C'est un texte qui, quand on l'imprime, il fait 3 pages à 4. Donc, c'est vraiment très condensé. Et ça a été affiné pendant 10 000 ans. C'est 112 phrases, 112 méditations, on les appelle préceptes ou sutras, qui parlent de l'expansion de la conscience, mais dans des actes de la vie de tous les jours. Par exemple, dans la respiration, si vous prêtez attention à l'infime instant qui sépare l'inspire de l'expire, quand l'air s'arrête de circuler dans vos poumons, et quand vous faites la même chose dans l'autre sens, entre ce qui sépare l'expire et l'inspire, quand vous mettez votre pleine conscience sur ce moment infinitésimal, mais pendant un bon moment, hein, vous pouvez entrer dans une porte cachée, une porte secrète. C'est ce que dit ce précepte qui pourra ouvrir votre conscience. Mais ça peut se pratiquer des heures, des jours, des mois, jusqu'à ce que ça se révèle. Et puis comme il y a 112 préceptes, chacun a le sien, et vous avez à trouver le vôtre, hein, puisque chacun est différent, et donc vous ne réagirez pas de la même manière au même précepte. Voilà, c'est un texte sacré, je le donne à ceux qui en font la demande, mais seulement pour pratiquer, pas pour lire, hein, c'est pas de la lecture. Voilà, donc je vais commencer à vous dire de quoi il s'agit, hein, quand on dit « je vais faire du tantra, hein, ce soir je vais faire du tantra ». C'est le tantra tel que moi je l'enseigne, puisqu'il y a d'autres manières de l'enseigner. C'est une démarche qui utilise la voie corporelle pour une évolution spirituelle. On va utiliser le corps avec son intelligence, par exemple dans les danses, vous l'avez fait, de manière à étendre la conscience, de manière à vous ouvrir à la joie d'être plus vrai, d'être vraiment vous-même. Et le tantra peut se résumer en 2 mots. Soyez tel quel. Tel quel, ça veut dire, si je suis joyeux, ben, j'autorise la joie. Si je suis triste, j'autorise la tristesse. Si je suis en colère, je l'autorise aussi. Malheureusement, ben, notre société nous conditionne à cacher les émotions, à bloquer. Ce qui fait que dans notre intérieur, nous avons des conflits. Hein. Nous avons des choses qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc on apprend dans le tantra à devenir de plus en plus libre avec notre intériorité, avec nos émotions, avec notre soi, hein, notre soi profond. Alors le tantra ne se situe pas dans le champ de la morale, le tantra ne vous dira jamais « faites ça, mais pas ça hein. ». Le tantra dit simplement « soyez un avec l'existence ». Ça veut dire, quoi qu'il se présente à vous dans votre vie, acceptez-le. Acceptez-le. Ne réprimez pas les choses. C'est comme ça que vous pouvez être un avec l'existence, en enlevant les enjeux, les conditionnements, les limitations, pour trouver une vraie nature et une vraie liberté. Alors, c'est pas simple parce que nous vivons dans un monde de conditionnements. Certains conditionnements sont justes. Hein, quand vous voyez un feu rouge... stopper, parce que c'est bien pour rester en vie, ouais. C'est utile. Donc tout n'est pas à jeter. Mais certains conditionnements sont limitants pour votre être, pour votre liberté. Hein, si vous avez, on ne vous a pas autorisé à vous mettre en colère, ou si vous pensez que vous allez être jugé parce qu'il y en a marre, alors vous limitez l'énergie de vie, hein, que représente la colère, et ça va tourner en rond à l'intérieur de vous. Voilà, donc on trouve ces conditionnements dans le tantra avec des exercices, on regarde les limites qu'ils nous apportent, on voit est-ce qu'ils nous conviennent ou est-ce qu'on a envie de lâcher un petit peu, beaucoup, passionnément ou complètement un conditionnement limitant. Alors, pourquoi on enlève les enjeux et pourquoi on enlève les conditionnements ? Bah, tout simplement pour retrouver sa liberté intérieure. Alors, je vais faire un petit sondage. Qui dans la pièce n'a pas envie d'être libre ? Bon, bah, pour l'instant, je n'ai pas eu de main qui s'est levée encore. Hein. Et deuxième question, qui n'a pas envie d'être heureux? Voilà. Mais malgré que ça semble naturel, hein, que personne ne lève la main, en même temps, remarquez que c'est ce qui nous réunit. Hein. On a tous envie d'être libre et on a tous envie d'être heureux. Même quelqu'un qui se sent horriblement mal, même un meurtrier, un criminel, au plus profond de lui, a envie d'être heureux. Et il a envie aussi d'être libre. Et moi, je rajoute, il a envie d'être aimé. Peut-être lui plus qu'un autre, hein, puisqu'il est amené à faire des choses horribles pour qu'on fasse attention à lui. Et il a envie d'être heureux au plus profond de lui. Donc, dans le Tantra, on essaie de se connecter à ce désir profond qu'on a tous, qu'on partage tous, d'être libre. Être libre, ça veut dire, je trouve en moi les endroits qui disent, ah, ça, c'est pas vraiment moi. Ça, je le fais, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et remplacer ces endroits par de quoi j'ai envie, vraiment. Hein. Si j'étais pas limité par l'autre, par la société, par l'éducation, par la morale, par, et la liste est longue, qu'est-ce que je ferais maintenant qui est vraiment moi, hein. Et c'est ça qu'on essaie de cultiver dans le Tantra. Être vrai avec vous-même, avec votre liberté, hein, trouver votre liberté, soyez vraiment vous-même le plus possible et de plus en plus souvent dans votre vie. Donc c'est pas simple parce qu'on nous a appris à nous limiter. Donc dans un groupe de Tantra, on va tous fonctionner avec des règles du jeu qui permettent de lâcher les choses. Par exemple, il n'y a pas d'enjeu, hein, avec l'autre. C'est fort ça, parce que dans la vie de tous les jours, souvent le défi se trouve avec la personne qui est en face de vous. Hein. Mais quand dans le Tantra on dit il n'y a pas d'enjeu avec la personne qui est en face de vous, faites vraiment ce que vous avez envie de faire sans vous limiter avec des croyances qui disent il va me juger, elle va me limiter. Le défi, il est avec vous-même à ce moment-là. Alors ça, c'est formidable. Parce que le défi est déplacé. Il n'est plus avec l'autre. C'est, est-ce que je suis assez libre pour autoriser ce dont j'ai envie maintenant? Et l'autre, c'est pareil. Hein, si ce que vous avez envie ne plaît pas à l'autre, et ben le défi, ça va être de dire non. Non merci, pas tout de suite, ça va trop vite. Oh, on s'arrête un petit peu. Voilà, et donc dans le Tantra, on explore beaucoup cette phrase « De quoi j'ai réellement envie maintenant ?» Par exemple, dans l'espace de danse, ça a été « Danser comme vous avez envie, ne vous limitez pas pour des raisons étranges. » La raison étrange, c'est « Si je danse comme un déjanté, on va me juger, hein, on va me traiter de trois petits points. » Ne vous limitez pas, ne vous forcez pas. Hein. Vous voyez que quand on applique ces deux règles-là en même temps, on est naturel. Hein, c'est ça dont il s'agit. Donc, de quoi j'ai vraiment envie? C'est une question que nous pouvons nous poser plus souvent dans la vie. Mais dans le Tantra, on s'entraîne à réfléchir à ça. On s'entraîne à agir de manière plus libre que dans la société. Donc, c'est comme si vous entriez dans un espace protégé pour vous entraîner à être libre, comme si vous vous entraîniez à refaire du vélo après 10 ans que vous en ayez pas fait. Le vélo, on l'oublie pas. La liberté non plus, on l'oublie pas. Hein, quand vous remontez sur le vélo, vous faites un tour de piste et c'est bon. Donc dans les groupes de Tantra, on fait des tours de piste. Hein, on se rappelle qu'on est déjà libre, mais qu'on se limite, on se conditionne avec l'état actuel de la société. Ça va jusque-là? Je fais juste 15 secondes de pause, s'il y a quelque chose à dire, à demander. Donc on va essayer de trouver la liberté intérieure, hein. La liberté extérieure est souvent conditionnée. La liberté intérieure peut se révéler très grande lorsqu'on arrête de se référer à des choses extérieures. Hein. de quoi j'ai envie, c'est pas de quoi l'autre a envie, hein. C'est j'ai envie d'hurler ma joie, j'ai envie de crier ma colère, j'ai envie de pleurer ma tristesse. Oui, oui et oui. Dans les trois cas, c'est oui. Et quand je fais ça, je résous beaucoup de conflits intérieurs. Et les conflits, ils ont ceci de particulier, c'est qu'ils mobilisent beaucoup d'énergie. Ça dit oui, ça dit non. Et c'est la guerre. Et la guerre, elle est tendue. Et cette tension vous épuise, hein, vous consomme de l'énergie. Donc quand vous pleurez lorsque vous en avez envie, quand vous vous mettez en colère quand vous en avez envie, et quand vous rayonnez votre joie quand vous en avez envie, vous êtes un avec l'existence, c'est-à-dire que vous ne faites plus barrage à l'énergie de vie. C'est ça que dit le tantra. Soyez un avec l'existence. Soyez tel quel. Répondez à la question, de quoi j'ai vraiment envie, et puis essayez d'appliquer le plus possible. Alors bien sûr, à 18h dans le métro, parfois on se limite un petit peu. Mais il y a d'autres circonstances où c'est possible d'être plus vrai avec vous-même. Donc, on essaie de trouver une liberté intérieure qui permet de dire un vrai non à une personne ou à une situation dont je ne veux plus, et qui permet de dire un vrai oui à une personne ou à mes désirs profonds. Hein. Voilà, quand je peux dire un vrai oui, le jour où je dirai non, ça sera un vrai non, parce que je sais dire oui. Quand je peux dire un vrai non, le jour où je dirai oui, ça sera un vrai oui, parce que je sais dire non. Vous voyez que ces deux-là sont très reliés. Hein. Donc, on s'entraîne aussi à dire oui, des vrais oui, et on s'entraîne aussi à dire non, des vrais non, dans le tantra. Donc, on se respecte. Hein. Il n'y a pas besoin de dire non quand dedans ça dit oui. Il n'y a pas besoin de dire oui quand dedans ça dit non. Donc, vous voyez que le tantra, c'est un voyage intérieur. Hein. C'est vraiment de vous à vous. C'est pour ça que tous les on-dit à propos du tantra, de l'énergie sexuelle, abordent l'aspect outil. Hein. C'est les outils, mais le but, la fin, et non pas les moyens, c'est votre intériorité, votre intimité avec vous-même. Donc, on explore dans le tantra l'intimité profonde avec nous-mêmes. Cette intimité-là, souvent, elle est très peu explorée parce que on reste social, hein, on reste à la surface. Même dans le couple, parfois, on peut se protéger et puis ne pas aller réellement profondément en nous. Et on explore l'intimité profonde au moyen de l'intimité avec l'autre. Donc, par moment, vous allez vous retrouver en face de quelqu'un et vous allez vous regarder dans les yeux, sans dire un mot, et pendant 20 minutes. Et vous allez entrer dans une intimité visuelle. En ne jugeant pas l'autre, en ayant un regard bienveillant, et puis vous allez pouvoir communiquer sans un seul mot, très profondément. Ça, c'est un exemple d'exercice qu'on fait. Donc, l'autre est là en face de vous, mais en vérité, celui qui vit l'expérience, c'est vous, c'est toujours vous. Et c'est ça le but du tantra, c'est que l'autre puisse vous procurer des moyens d'entrer en intimité avec vous-même. Si le regard avec l'autre vous gêne, vous avez appris quelque chose sur votre gêne avec l'autre. Tiens, pourquoi là je suis gêné? Qu'est-ce qui pourrait me permettre d'être détendu avec l'autre alors qu'il n'y a aucun enjeu, alors qu'il s'agit juste d'offrir un regard et de le recevoir? Voilà. Donc, c'est un apprentissage. Hein, pour. Et puis, vous pouvez aussi désapprendre des choses. Hein, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux sans être jugé, pour vous dire, un regard, ça peut être super, agréable aussi. C'est pas seulement un regard qui me plombe ou qui me juge, qui me dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Donc, l'autre a le rôle de déclencheur, l'autre a le rôle de miroir. Hein. Et c'est tout. On est avec des outils. Hein. L'autre est un outil pour vous, et vous êtes un outil pour l'autre. Et l'outil, c'est comment entrer en intimité avec vous-même. C'est l'autre qui vous sert à ça. Et c'est pour ça que cette phrase existe dans le tantra. On utilise le deux pour se rappeler qu'il n'y a pas deux. Hein. En vérité, quand on fait un avec l'existence, il y a seulement l'existence. Il y a l'unité absolue. C'est ça la voie spirituelle du tantra. Mais pour arriver à ce un-là, on utilise le deux. On utilise l'homme et la femme. Et pourquoi l'homme et la femme? Parce que nous avons à l'intérieur, qu'on soit homme ou femme, une partie homme, une partie femme. Je dirais plutôt une partie yang et une partie yin. Hein. Tout le monde là, c'est ce que moi, Il y a 13 ans, j'ai découvert, j'explorais très peu le yin, ma sensibilité. Et lorsque nous unissons les deux, lorsque nous sommes vraiment complets, alors nous sommes un. Hein? Et c'est pour ça que dans notre monde, on se marie, on a des relations amoureuses, parce qu'on a des énergies qui s'attirent. Hein? Mais c'est aussi pour faire ce mariage-là à l'intérieur. Ça va ? De temps en temps, je respire, hein. Je vous laisse aussi respirer. Oui, si vous avez froid, cherchez un pull. Il y a aussi des plaids derrière la porte, à côté des WC. Il y a des plaids. Ceux qui veulent des plaids, hein, c'est possible d'en sortir quelques-uns. Si vous n'êtes pas à l'aise, changez de siège, prenez une chaise. Hein, rappelez-vous, respectez-vous. On est dans un groupe de tantra, hein, donc respectez-vous. Il n'y a pas de raison de vous forcer. Voilà. Ils veulent qu'on ferme. Donc c'est comme dans le bus. Hein, ceux qui veulent fermer en priorité par rapport aux autres. Tous les groupes de tantra sont cadrés. Et c'est moi qui assure le cadre. Il y a une règle qui n'est pas assuré par moi, pour une bonne raison, je vous la dirai. Mais le cadre est très important, parce que pour lâcher des choses, des gros paquets, pour trouver une liberté, pour lâcher des peurs, pour lâcher des conditionnements qui durent depuis des milliers d'années, c'est pas seulement vous, vos parents et vos arrière-parents, grands-parents, c'est toute une lignée qui a enseigné, soit limitée, ne fais pas de vagues, parce que nous, on aime bien les choses bien... qui déborde pas, etc. Donc, tous les groupes sont cadrés pour vous inviter à entrer dans votre espace de sécurité. On ne peut pas tenter des expériences de liberté si on ne se sent pas en sécurité à l'intérieur. Donc, l'objectif du tantra, à travers le cadre, c'est de vous procurer un espace de non-jugement pour vous, pour l'autre, un espace de sécurité à l'intérieur. Et à ce moment-là, lorsque il n'y a pas ce jugement-là sur j'ai envie de faire ça ou j'ai pas envie de faire ça, je m'autorise ou je dis non, les défis avec l'autre s'envolent. Hein. Lorsque dans le cadre, il est dit ne mettez pas d'enjeu sur l'autre, que ce soit un homme ou une femme, il ne s'agit pas là d'entrer en relation amoureuse avec quelqu'un ou de chercher un partenaire, mais simplement d'entrer en relation intime avec vous, grâce à celui-là. Donc, dès qu'il n'y a plus d'enjeux, plus d'objectifs, dès que le défi, dès qu'il y a le non-jugement, les défis que habituellement vous posiez sur l'autre, ils sont posés en vous. Hein. Et à ce moment-là, vous pouvez faire d'autres choix, parce que c'est vous et vous seul, hein, qui décidez de comment vous répondez à ces défis. Le défi, ça peut être simplement « Oh, j'ai envie là, est-ce que je dis oui ?» C'est ça le défi. Comme vous savez que vous n'êtes pas jugé, comme vous savez que la personne à qui vous dites oui sait très bien que vous jouez la règle du jeu, qu'il n'y a pas d'objectif avec quelqu'un, à ce moment-là, le oui, c'est vraiment un oui pour vous. Ça, c'est fondamental. Et le cadre que je pose, il se compose de 5 ou 6 règles très simples. Il va avoir pour objectif de vous faire entrer dans votre propre espace d'autorisation, dans l'espace qui dit « Ah, je peux me détendre, j'ai envie de tenter cette expérience, ben, je vois que là, avec cette sécurité qui est proposée, je dis oui. Je dis oui à la tenter parce que je verrai ce que ça donne. Hein, » puisque d'habitude, il y a tellement de défis extérieurs que je dis tout le temps non, hein, à cause de certaines peurs. Donc, je vais vous dire le cadre, je le commenterai très peu. Dans les groupes de tantra, je le commente un petit peu plus. La première, vous la connaissez déjà. Respectez-vous, respectez l'autre, ne limitez rien, ne forcez rien. Donc, quand j'ai envie de dire oui, je dis oui, et j'arrête de dire non pour des raisons mentales. Hein. On va me juger, c'est une raison mentale. On m'a dit de ne pas le faire, c'est une raison mentale. Mais j'ai envie de le faire, c'est une vraie raison. Quand l'autre dit non, je respecte et puis je vais voir quelqu'un d'autre. Moi, ça m'a valu 3 mois d'extase, donc tentez, hein. Faites l'expérience. Il n'y a jamais besoin de forcer l'autre, hein. Donc c'est aussi l'espace de sa sécurité. Quand il dit non, c'est respecté, hein. Tout le groupe, du début à la fin, est dans un espace de non-jugement parce qu'on essaye des choses. Voilà, on autorise des expériences inédites. Inédite dans un cadre social, mais pas inédite dans les groupes, dans l'autorisation du groupe. On ne met jamais d'enjeu sur quelqu'un, c'est-à-dire que je ne fais pas ce groupe pour avoir ton téléphone en fin de soirée, je fais ce groupe pour aller de mieux en mieux avec ma liberté intérieure. Si j'oublie cette règle, ben je passe à côté du principal. Le principal, c'est j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être heureux, et comment je m'y prends, hein, de moi à moi. Voilà, il n'y a jamais de passage à l'acte, donc on n'est pas violent avec quelqu'un et on ne fait jamais de sexualité directe. Hein. On joue avec l'énergie sexuelle. Donc ça accorde une certaine sécurité. Et puis, lorsqu'il y a des couples, ils peuvent choisir d'être entre eux, faire tous les exercices intimes entre eux pour rester dans leur propre intimité et sécurité. Et la règle dont je vous dit que vous êtes les gardiens, c'est tout est confidentiel. Tout est confidentiel, ça veut dire qu'on dit des choses intimes, on fait des choses intimes, on ne les raconte pas à l'extérieur parce que c'est intime, tout simplement. C'est secret parce que c'est intime. Donc si vous prenez des risques en racontant une expérience très touchante, très profonde pour vous, que vous n'avez jamais raconté à personne, vous prenez ce risque pour être plus libre, hein, pour autoriser, alors vous avez envie que ça reste la propriété du groupe et ça ne sorte pas du groupe. Voilà la raison de la confidentialité. Voilà pour ce cadre, vous voyez, il est clair, court et simple, hein, parce que le tantra est aussi clair, court et simple. Le tantra, c'est soyez vrai, hein, ça peut se dire en deux mots, soyez vrai. Enlever les masques. Dans notre société, souvent, c'est un bal masqué. Hein, c'est une image qui joue avec une autre image. Hein. Voilà l'image que j'ai envie de te donner, et elle joue avec l'image de celle que tu as envie de me donner. Mais les êtres vrais restent à distance. Dans le tantra, on met les êtres vrais en face, et on essaye de faire des bals démasqués, plutôt que des bals masqués. C'est pour ça qu'il y a des bases tantriques, hein, de temps en temps. Alors, je dis deux mots sur le tantra couple. Le tantra couple, il est spécifique au couple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inscrire si on est tout seul. Hein. Il faut forcément être à deux. Le tantra couple, c'est amener le sacré dans la relation amoureuse et sexuelle, élever le niveau de conscience de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle peut être utilisée bestialement, peut manipuler, peut avoir envie de manipuler, et l'énergie sexuelle peut être magnifique et élever la conscience, et dans ce sens, elle est sacrée. Donc, on s'entraîne dans les stages couples à élever sa vision, hein, élever cette énergie, élever le niveau de conscience dans l'énergie sexuelle. Ça, c'est avec des exercices spécifiques. Donc, il y a trois stages de tantra couple cette année. Un en décembre, du 20 au 22. Un autre week-end en mai, fin mai, 30 mai, 1er juin. Et puis, 4 jours au château de Bellevue, dans le Jura, hein, pour vraiment aller très profondément. Toutes ces dates, vous les retrouverez sur la plaquette, mais je vous donne les rendez-vous de cette année. Voilà, et puis juste un mot sur la formation personnelle. Donc 11 jours, 4 modules. Ça coûte 950 € pour les 11 jours, mais si vous vous engagez, ça coûte 950 € si vous vous engagez avant le 1er janvier. La formation débute le 1er février. Après le 1er janvier, c'est 1050 €. Donc, c'est priorité à ceux qui s'engagent d'abord. 1er, 2 février, 15, 16 mars, 7 au 9 juin, et puis 19 au 23 juillet, et à partir du 15-16 mars, c'est toujours les mêmes personnes ensemble. Donc vous pouvez faire le premier groupe pour tenter et voir si vous avez envie de vous engager pour continuer l'aventure avec les autres. Le premier est semi-fermé, c'est-à-dire que vous pouvez encore changer d'avis. Deux mots du tantra jeune, puisqu'il y a certaines personnes ici qui ont entre 18 et 30 ans. C'est une dimension que j'ai ouverte l'année dernière. Je fais des tentatives à propos de ça, parce qu'il y a une nouvelle génération qui a beaucoup moins de conditionnement que l'ancienne. Et dès 18 ans, parfois, c'est beaucoup moins conditionné, il y a beaucoup moins de peur, il y a beaucoup moins de limites. Et donc j'ai à cœur de les accueillir et de ne pas mélanger les générations ensemble, c'est-à-dire de faire des groupes spécifiques pour cette nouvelle génération. Donc, arbitrairement, j'ai limité à 30 ans. Voilà. Au-dessus de 30 ans, on peut faire du tantra avec le reste des personnes. Et comme ce sont des personnes qui souvent ont moins de revenus que les autres, il y a un demi-tarif pour les faibles revenus. Donc ça, c'est sur demande. Je l'accorde volontiers pour ces personnes-là. Donc j'ai déjà fixé une première réunion, samedi 5 octobre, 18h, 22h. Donc voilà, elle n'est pas dans la plaquette pour l'instant, mais vous pourrez réécouter l'enregistrement, ou alors vous pouvez me le redemander. Je créerai une annonce aussi spécifique pour ça. Le principal obstacle à ce que ces groupes se développent, pour moi et pour l'instant, c'est que j'ai peu de réseaux parmi cette tranche de population. Donc, c'est vous qui écoutez cet enregistrement, c'est vous qui êtes là dans cette salle, qui êtes chargé de porter cette nouvelle. Et je connais déjà quelques personnes qui ont une énergie extraordinaire. Je me suis dit, cette énergie, j'ai envie de la favoriser. Donc, vous pouvez avoir des enfants qui ont cet âge-là, vous pouvez avoir des amis aussi. Donc, et ceux qui sont dans cette tranche d'âge ici, dans cette pièce, voilà, utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître, puisque moi je connais très peu de personnes, mais je suis disposé à faire démarrer ça le plus vite possible. Et puis il y a une dernière structure que je propose, c'est le tantra avancé. Le tantra avancé s'applique aux personnes qui ont déjà un an d'expérience dans le tantra et qui souhaitent avancer sans repartir à zéro à chaque fois, sans repartir de la base. Donc quand vous avez fait un an de tantra, vous pouvez avoir fait grandir votre liberté et vous pouvez avoir envie d'aller au-delà encore de ce qu'on fait dans les week-ends, les stages de 3 jours. Vous pouvez vous sentir déjà beaucoup plus libre. Votre vie a peut-être déjà changé parce que vous avez installé une liberté additionnelle dans votre vie. Et donc, vous avez envie de progresser encore et de ne pas refaire les mêmes exercices. Même si la gamme est très grande, j'ai prévu du tantra avancé. C'est uniquement sur entretien parce qu'il y a beaucoup moins de progressivité. Et on y va, c'est plus impliquant et on y va beaucoup plus directement. Donc, je jauge votre niveau de liberté et puis je vous dis, vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt encore. C'est jamais un jugement, mais plutôt pour ne pas que vous soyez brusqué, parce que on ne prend pas de pincettes, on se base sur la liberté pour aller encore plus loin. Donc, ce n'est pas progressif. Et la particularité cette année, c'est que le tantra avancé, on s'inscrit à deux. Donc un homme et une femme qui ne sont pas en couple forcément, mais un duo, s'inscrivent ensemble. Comme ça, la parité est gérée par les inscriptions. Et puis pour ceux qui ne connaissent personne, je mets en relation les solos qui peuvent éventuellement... Voilà, cette année j'ai innové quelque chose. L'année dernière j'avais beaucoup plus d'inscriptions d'hommes que de femmes. Parfois j'avais seulement des hommes dans certaines inscriptions. Donc j'ai favorisé l'inscription des femmes en réduisant le tarif pour les femmes et en l'augmentant un petit peu pour les hommes. Donc c'est pas le même tarif cette année, sauf quelques groupes, pour les hommes et pour les femmes. Hein. C'est un petit peu moins cher pour les femmes et un petit peu plus cher pour les hommes. Les hommes, voilà, soutiennent un petit peu plus le budget des femmes, qui parfois est limité pour participer à ça. Mais s'il y a des femmes qui ont du budget, vous pouvez payer le tarif de l'homme, c'est pas un problème. Hein. Voilà, ça va? Oui? Tout le monde est réveillé? Bon. Rappelez-vous, soyez détendu et naturel. Hein. À chaque fois qu'une question se pose, alors posez-la. Hein. N'attendez pas que ce soit le moment. Le moment, c'est toujours quand elle est dans votre esprit. Alors, je vais vous parler des thèmes principaux que j'ai abordés jusqu'à présent dans le Tantra. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a beaucoup, il y en a certainement d'autres, mais ça pourra vous donner une idée de ce qu'on fait dans les groupes. Hein. Je vais vous donner les têtes de chapitre et ensuite j'entrerai un petit peu plus dans le cœur du sujet. Le premier thème, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'être plus libres ? Alors, ça se décline vraiment dans plein de facteurs divers et variés. La deuxième, c'est résoudre les conflits intérieurs en choisissant de tout inclure. Hein, on verra comment. La troisième, c'est unir en moi le masculin puissant au féminin sensible pour célébrer à l'intérieur les noces, hein, le mariage intérieur. Embrasser la mariée. D'accord. Voilà. Donc c'est unir le yin et le yang en vous. Hein. Ensuite, il y a améliorer l'estime de moi-même en m'offrant le meilleur. Ensuite, on peut explorer où en est mon autonomie affective. Est-ce que je suis libre d'aimer et d'être aimé? Donc chacun se pose la question intérieurement. Un autre thème, c'est honorer le flux du vivant en moi. Hein. Est-ce que l'énergie qui circule, je l'honore ou est-ce que je la restreins, je la limite? Le sixième, c'est la joie et ma nature. Ma vraie nature est joyeuse, mais il y a des couches et des couches de brume par-dessus. Ensuite, et la dernière, c'est faire un avec le désir, le célébrer, le glorifier, lui donner ses lettres de noblesse. Donc, restaurer la beauté du désir vivant en vous. Le désir sous toutes ses formes. Voilà, ça c'est des thèmes qui ont été explorés séparément en une journée par exemple ou en un week-end, on a exploré un de ces thèmes-là complètement avec des exercices qui sont dédiés à approfondir ces thèmes-là. Alors, quand je reprends le premier thème, c'est un des thèmes qui sont explorés tout le temps, quels que soient les autres thèmes. Qu'est-ce qui nous empêche d'être plus libres, hein? Puisque chaque groupe de tantra est destiné à faire grandir votre liberté. Donc, on regarde intérieurement quelles sont les peurs, on regarde quelles sont les limites, et on essaie d'être honnête. Hein? Une des qualités qui permet d'avancer très vite, c'est d'être honnête, intègre. Quels sont les conditionnements, quels sont les jugements que je porte, quelles sont les croyances que j'ai, quels sont les tabous, les choses dont il ne faut absolument pas parler, quelles sont les vieilles mémoires, etc. Alors on voit que tout ça, ça divise la réalité, ça met d'un côté ce qui se passe réellement, et ça met de l'autre côté l'image que j'ai de la réalité. Je suis ça, mais il faudrait que je sois différent. Hein. Et donc, il y a une dualité en moi. Je suis en colère, mais il faudrait que je montre un grand sourire. Donc, vous voyez, on a déjà une distance entre les deux. Il y a ce que je suis et il y a l'image que je veux montrer. Hein. Et ces deux-là s'opposent. Et mon énergie part dans ce conflit-là. Donc, on arrête de diviser la réalité. On arrête de juger, on essaie de déconditionner le mental. Déconditionner le mental, ça peut se faire en choisissant simplement d'être vrai. Quand je suis vrai, je ne réponds pas à un conditionnement. Alors j'ai cité l'exemple de la colère, de la tristesse. Voilà. J'ai envie, je suis vrai. J'ai pas envie, je suis vrai aussi, avec ma non-envie. Et lorsque je ne respecte pas cette vérité intérieure, je crée la souffrance. Hein. C'est la distance entre la réalité qui est là et l'image que je veux donner qui fabrique la souffrance. Hein. Quand je suis vrai, je ne peux pas souffrir. Je suis dans le courant, hein, dans le courant de l'existence. La souffrance, c'est résister au fleuve. Hein. C'est très difficile de nager à contre-courant. Et quand vous jugez, vous souffrez. Hein. Quand vous dites « tu ne devrais pas être comme ça », même si vous pensez que l'autre a fait quelque chose de mal, alors vous créez un conflit et vous souffrez. Donc on essaie consciemment de renoncer à certains jugements. Pour renoncer à sa propre souffrance, hein, pour soulager à l'intérieur. Voilà, un autre exemple, c'est « je voudrais tellement un monde d'amour et de fraternité, alléluia hein. ». Mais je vois un monde d'absurdité, de cupidité, et je déprime. Hein. Donc vous voyez qu'il y a deux choses qui s'opposent en moi. Et le problème, selon le tantra, hein, selon cette non-dualité-là, n'est pas le monde que je vois, mais le regard que je porte sur le monde. Et donc, le jugement que j'ai sur le monde. Si je m'oppose au monde que je vois, je souffre parce que je m'oppose. Mais ce n'est pas le monde qui me fait souffrir, c'est mon opposition. Si j'accepte le monde que je vois, ça ne m'empêche pas d'agir de manière aimante pour corriger, pour trouver, pour adhérer à des associations. Mais je ne suis plus en train de lutter. Et la lutte, elle est toujours intérieure. Donc, on arrête les conflits en acceptant ce qui se passe. Et je dis tout de suite, accepter ne veut pas dire cautionner. Hein. Le monde est comme ça, le monde est comme ça. Hein. Alors je déprime si je me dis, pauvre de moi, je suis tout petit et je ne peux rien faire. Et si j'accepte que le monde est comme ça, je peux aussi me dire, je fais ma part. Hein, le petit colibri hein, qui prend une goutte d'eau, qui la verse sur le grand incendie de forêt, il fait sa part. Vous connaissez Pierre Rabhi, hein? Peut-être. Donc, le problème n'est pas la personne qui me traite d'idiot, le problème c'est comment je souffre avec ça, hein? Comment je reçois. Donc, c'est toujours intérieurement que ça se passe. Voilà, donc, j'arrête de me battre pour faire coller le monde ou pour faire coller l'autre à mon image mentale intérieure. Donc, on accepte, hein? C'est une voie d'acceptation. C'est pas facile forcément, mais c'est une voie de liberté, hein, parce que vous réglez le conflit qui dit pour que je sois heureux, il faut que tu changes. Il faut que tu arrêtes de me dire des bêtises, que je suis bête. Faut que tu dises je suis beau, intelligent, tout le temps, chaque jour, le matin au réveil, entre 8h et 9h. Vous voyez qu'il y a une grande dépendance quand vous dites des choses comme ça. Alors que quand quelqu'un me dit « tu es bête, moi je peux, si je suis assez libre, je peux dire « c'est ton opinion, ok, moi je pense autrement, mais tu as le droit de penser ça, j'ai pas adhéré. Hein? » Et donc je ne me suis pas battu contre son opinion, j'ai accepté qu'il puisse avoir cette opinion-là, et en même temps je peux garder ma propre valeur, je ne suis pas obligé de plonger dans son opinion, ou dans la déprime, qui dit « tu as raison, hein, je suis bête ». C'est parce que vous pensez que vous êtes bête que vous déprimez, hein, généralement. Vous pensez qu'il dit des choses vraies. Donc, c'est ok d'être ici, c'est ok d'être dans chaque groupe de tantra avec un mélange de désir et de peur. Hein. On n'est pas là pour être 100% joie, voilà. Mais on accepte les limites, on accepte les conditionnements, on accepte les peurs et on les regarde en face. Hein. Il y a une phrase très belle qui dit « quoi que ce soit qui vous arrive dans votre vie, faites-y face. » C'est en y faisant face que vous le réglez, c'est pas en vous mettant la tête dans le sable. Donc l'invitation dans le tantra, c'est de se focaliser plutôt sur le vivant et le désir et de partir du vivant pour observer les parties limitées telles que la peur, les jugements, les limitations. Hein, donc quand j'observe la peur depuis le vivant, alors la peur diminue parce que c'est le vivant hein, qui l'observe. Donc c'est ça la conscience et c'est ça l'expansion de la conscience. Hein. J'ai envie d'y aller mais j'ai peur. Bah oui, j'ai peur. Je vois que j'ai peur. Ouais, mais j'ai envie quand même d'oser, malgré la peur. Allez, je me focalise sur l'envie. Allez, j'y vais. Vous voyez, j'attends pas que la peur arrête d'agir pour y aller. J'y vais avec la peur. Et on explore aussi dans le tantra entrer dans la pièce. Certains ont peur de la peur. Donc j'ai peur, mais je n'ai pas envie d'y aller parce que j'ai peur de la peur. Et quelqu'un dit, vous ne pouvez pas quitter une pièce si vous n'êtes pas entré dedans. Hein, entrez dans la chambre et ensuite décidez d'en sortir. Quand vous avez peur, allez voir, entrez dans la chambre. Regardez ce que ça fait et ensuite sortez-en. Mais si vous restez tout le temps dedans, vous avez une image mentale de l'émotion, mais vous n'avez pas l'expérience de l'émotion. Et dans le tantra, on essaye d'entrer dans la pièce. Et ça demande un peu de courage, hein, mais on est dans la serre hein, qui protège les jeunes plants, les jeunes pousses. Donc on n'attend pas de plus avoir peur pour participer à un groupe. Chacun et chacune vient avec un mélange de désir et de peur. Chaque fois que vous libérez une peur, chaque fois que vous parlez avec honnêteté d'une peur, vous faites de la place pour plus de vivants. Et c'est comme ça que votre liberté grandit. Donc on regarde les limites, on observe en conscience les limites, et naturellement ça fait venir plus de liberté. Il n'y a pas besoin de s'occuper de la liberté en vérité. Voilà pour qu'est-ce qui m'empêche d'être plus libre. Ça va? Vous tenez le choc? Il y a des petits SMS qui se baladent. Si à un moment donné vous avez envie d'une boisson chaude, vous pouvez voilà, sortir, revenir avec, librement, hein, puisqu'on parle de liberté. Il y aura à la fin une petite collation, hein, comme vous pouvez vous y attendre. Alors, le deuxième sujet dont je vais parler, c'est résoudre mes conflits intérieurs en choisissant de tout inclure. Tout inclure, ça veut dire, bien sûr j'en ai déjà parlé, puisque tous les sujets incluent tous les sujets. Ça veut dire accepter qui je suis en ce moment sans condition. C'est pas très, très compliqué à formuler, c'est peut-être plus complexe à vivre, mais j'ai peur, oui d'accord j'ai peur. Hein. J'ose pas, ok j'ose pas. Vous voyez que je dis oui à mes limites. Hein. Donc j'accepte ce que je suis maintenant sans condition. J'attends pas que la peur cesse. Hein. J'arrête les guerres intérieures parce que les guerres intérieures me coupent de mon énergie. Donc je me regarde, j'essaie d'être vrai, j'essaie d'être entier, j'essaie d'être intègre avec ce que je vis, puisque je le vis. Hein. J'ose pas y aller, je le reconnais, puisque c'est ça que je vis. J'ose pas, j'ai vachement envie d'y aller, hein, mais j'ose pas. Ok, avis, t'oses pas. Bon, d'accord. Attends un petit peu, hein, regarde. Donc je suis 100% vrai, parce que je suis d'accord, je suis ok avec mon désir d'y aller, je suis ok avec ma peur d'y aller, hein, je suis ok avec les deux, je ne les oppose pas, je les mets ensemble, ces deux-là. C'est ça qui s'appelle inclure. Regardez dans votre vie ce que vous n'incluez pas. Par exemple, je suis en colère, mais je ne l'inclus pas. Je n'inclus pas ma colère dans mon expérience, j'attends qu'elle cesse, j'attends qu'elle se calme, je ne l'honore pas. Alors, il y a aussi accepter qui est l'autre en ce moment, sans condition. Hein, c'est ces deux-là, accepter qui je suis sans condition, accepter qui est l'autre, sans condition. Et quand vous faites ça, vous résolvez vos conflits intérieurs en incluant tout ce qui se passe. Bien sûr, vous incluez à l'intérieur et vous incluez ce qui se passe aussi à l'extérieur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, accepter quelque chose n'est jamais cautionner quelque chose. L'autre me dit « tu es idiot, je ne cautionne pas ça, mais par contre j'accepte qu'il l'a dit ». La réalité c'est qu'il l'a dit, hein, c'est ça que j'accepte. J'accepte aussi que ça peut me chambouler, hein. Je l'inclus aussi. Et puis on se rappelle dans le tantra que le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais que le bonheur est le chemin. Il est constitué des expériences de plus grande liberté que je m'autorise au fur et à mesure. Donc, on n'est jamais arrivé hein, dans la route du bonheur. C'est bien comme ça. Donc, qu'est-ce que j'accepte sans condition? J'accepte les jugements. J'accepte les peurs que je vis. Ou les peurs que l'autre vit. Hein? Ça s'applique toujours à moi ou à l'autre. J'accepte les conditionnements que je vis. J'accepte que l'autre aussi soit conditionné. J'accepte les comparaisons. Oh, je suis moins bien que lui, je suis mieux que celle-là, je suis trop grosse, je suis trop maigre. Voilà. J'accepte que ça bataille en moi avec ses plus et ses moins. J'accepte aussi les émotions. Je les inclus en moi telles qu'elles se présentent. Et puis je les laisse donner leur message. Les émotions ont toujours un message à donner. Si je rejette l'émotion, je rejette aussi le message qu'elle a à me donner. Voilà ce que c'est inclure tout, quoi que ce soit, sans condition. Alors, c'est pas facile, mais on s'entraîne dans le tantra. Et puis, on essaye aussi de unir le féminin et le masculin. C'est pour ça qu'on travaille en parité dans le tantra. Il y a toujours autant d'hommes que de femmes. Très rarement, il y a des désistements de dernière minute, ça arrive que ça ne le soit pas. Mais c'est toujours l'intention d'être autant d'hommes que de femmes, parce qu'on a besoin d'un miroir à l'extérieur pour refléter, si je suis un homme, le féminin que je suis aussi, avec la femme qui est devant moi, et si je suis une femme, pour refléter le masculin qui est en moi aussi. Alors, tout le monde est masculin et tout le monde est féminin en même temps. C'est présent en vous, mais dans le tantra, on ne les oppose pas, on les réunit, on les rassemble. On essaye de réunir le féminin et le masculin. Pourquoi ? Parce que chez la majorité des hommes, le féminin peut être sous-exprimé ou peut être jugé. Par exemple, un homme, s'il n'a pas fait cette expérience de développement personnel, va juger ses émotions. Il va dire « Non, on m'a appris à être un homme, un vrai, un dur, donc je ne pleure pas, je ne montre pas ma sensibilité. » La sensibilité, c'est une qualité féminine. C'est une qualité yin. Donc, elle est jugée par cet homme-là. Bien sûr, un homme qui a appris, il développe ce yin et il va s'autoriser à être sensible. D'accord ? Donc, on essaie d'enlever les jugements sur l'autre partie de nous, qui est moins exprimée que notre polarité. Si je suis un homme, c'est le yang qui est bien exprimé et le yin un peu moins. Au début de l'expérience, je ne parle pas en termes de généralité. Ça répond à la question ? On essaye de les unir parce que c'est pas évident pour la plupart des gens, déjà que nous possédons les deux polarités en nous, de le reconnaître, c'est déjà pas évident. Et puis, certains s'opposent à leur féminin, certaines femmes s'opposent à leur yang. Et donc, on fait la paix, on embrasser la mariée, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on essaye d'unir le masculin puissant et le féminin sensible. Alors, puissant et sensible ne sont pas les seules caractéristiques. Je vais vous donner quelques caractéristiques du yang. Et que vous soyez homme ou femme, vous les avez. Mais parfois, elles sont plus exprimées. Parfois, elles demandent à être exprimées. Alors, je vous les donne en vrac. Ce n'est pas du tout exhaustif. Vous pourrez les retrouver en réécoutant la conférence. Et regardez ce qui est déjà là en vous et regardez ce qui a besoin d'être développé en vous, que vous pouvez trouver dans les stages où on va s'intéresser à ça. Alors, le yang, l'énergie qui est plus masculine, elle est plutôt dans l'analyse, elle est plutôt dans l'action, elle est plutôt dans la compétence, elle est plutôt dans la structure, dans la puissance, dans la force, dans l'efficacité, dans l'initiative, dans le pouvoir de trancher, dans l'autonomie, dans la prise de risque, dans ce qui protège, dans ce qui sécurise, dans ce qui règle les problèmes, pas les factures, les problèmes, mais aussi les factures. Et c'est une énergie plutôt corporelle et plutôt cérébrale. Vous l'avez, hein, si vous êtes une femme et que vous avez des compétences, c'est une énergie yang que vous avez développée. Si vous êtes une femme et que vous êtes bien structurée, les pieds sur terre avec la matière, c'est une énergie yang que vous possédez bien. Voilà les caractéristiques de l'énergie yang. Quelques-unes du monde féminin, du monde yin. Alors, l'amour, hein, peut pas commencer par autre chose que ça. L'accueil, qui est un autre terme pour l'amour. La douceur, la grâce, la patience, la lenteur, le rythme lent, la sensibilité, la réceptivité, la générosité, la bienveillance, le fait de s'abandonner à quelque chose ou à quelqu'un, l'humilité, qui dit « je ne sais pas d'avance », embrasser, embrasser dans tous les sens du terme, nourrir, garder le temple. Hein. Et c'est une énergie qui est plutôt dans l'espace du cœur. Voilà. Donc si vous êtes un homme et que vous êtes doux, patient, sensible, alors vous avez développé ces qualités yin en vous. Hein. Et si vous n'avez pas la faculté d'humilité, alors c'est une faculté qui peut se développer. Et à quoi ça sert de développer ce qui est sous-développé en vous, à devenir plus complet, à arrêter de demander ça à l'autre, hein. Dans les relations amoureuses, souvent, c'est ça qui nous attire chez l'autre, c'est ce que nous pensons ne pas avoir à l'intérieur, hein. Si on voit quelqu'un d'extrêmement patient et que ça nous attire, alors c'est que cette notion de patience a besoin d'être développée en nous, et nous avons ce miroir là pour nous aider à le faire, et donc c'est des reflets, hein, que nous voyons. Ça va cette partie là oui, vous vous êtes reconnu?
Oui.
Alors, ça, c'est une bonne question. Il peut y avoir, ça peut être surexprimé. Hein. Par exemple, une femme peut avoir du yang à outrance, au détriment du yin. Et dans ce cas-là, elle doit refaire la paix avec son propre yin. Si elle a une structure au point où elle arrête d'être souple, alors elle a retrouvé la souplesse qui est une caractéristique yin. Hein. Donc, il y a toujours un équilibre entre le yang et le yin. Donc, le yin peut être surexprimé. Ça s'exprime parfois chez des femmes qui ont la tête dans les étoiles et pas du tout ancrées dans la matière, qui ne savent pas gérer l'argent, qui ne règlent pas les factures à temps, voilà, qui ne sont pas organisées, structurées dans le cérébral. Le cérébral sert aussi à gérer, hein. Donc, il y a un rééquilibrage, hein, énergétique à faire. Alors, parfois, je surexprime certaines choses pour me protéger. Hein, et donc, c'est à voir pourquoi je fais ça. Hein, quels sont les par en dessous, ce qui me pousse à agir en surexprimant. Et puis, il y a d'autres parties qui sont à l'abandon, hein, en moi. Par exemple, si je ne sais pas dire « je t'aime » sans enjeu, si je ne sais pas m'abandonner dans la bienveillance ou les bras de quelqu'un sans tout contrôler, alors je peux, dans le tantra, m'entraîner à développer ça. Ça répond ?
Oui.
Bon. Autre chose ? N'importe quelle question qui fait écho en vous peut aider la réponse à faire écho en quelqu'un d'autre, hein, parce que c'est jamais personnel, hein, tout s'adresse à tout le monde, y compris les questions qui semblent individuelles. 15 secondes de respiration, si une question vient librement.
Et il y a des exercices qu'on peut faire tout seul?
Oui. On fait dans le tantra, on fait des méditations, puisque on s'entraîne seul, à deux, en groupe d'hommes, en groupe de femmes, en grand groupe, avec des tas de structures différentes. Donc tout ce qu'on fait seul dans le tantra, tu peux aussi le faire seul chez toi.
Alors, ce que vous avez décrit sur le masculin féminin, je me rends compte que je suis une femme assez masculine.
Ok. Donc,
je peux faire des exercices seuls pour retrouver plus mon féminin?
Bien sûr, oui, oui. Alors moi, je reçois aussi en séance individuelle. Hein, donc, je peux aussi, dans l'esprit du tantra, amener les personnes qui viennent me voir à pratiquer un exercice qui se base sur l'énergie. Pour faire circuler l'énergie, partout où il y a une peur, l'énergie est bloquée. Et donc, c'est difficile. Hein. Partout où la peur se libère, l'énergie circule et la vie devient plus facile. Hein. La liberté est plus grande. Donc, il n'y a pas seulement des méditations, il y a des exercices énergétiques que tu peux faire seul. Et qu'on pratique dans le tantra. Donc on se rappelle que c'est toujours pour l'être intérieur, pour développer la conscience intérieure, qu'on fait ça avec d'autres. Hein. Et donc c'est jamais pour l'autre, mais avec l'autre, au moyen de l'autre qu'on le fait. Ça répond ? Voilà, donc on célèbre les noces intérieures, et puis on essaye de voir qu'est-ce qui est sous-développé en moi. Que je sois homme ou femme, mon yang peut être sous-développé. Un homme peut ne pas peut avoir peur de sa puissance, hein, parce qu'il va avoir peur, par exemple, de faire mal avec la puissance, et donc il va se protéger lui-même d'être puissant. Hein. Donc dans le tantra, il peut exprimer sa puissance dans des structures où on l'exprime sans faire du mal à qui que ce soit. On l'exprime en simplement autorisant un cri, par exemple. Voilà, je ne le fais pas trop fort parce qu'il y a le micro tout près. Mais voilà, on peut rugir comme des lions. Mais pourquoi le lion rugit ? Il n'est pas en train d'attaquer. Il monte sur la butte et puis il dit à toute la jungle, c'est moi le roi. Hein, voilà qui je suis. Hein. Donc quand vous rugissez comme ça, vous n'êtes pas en train d'exprimer que quelque chose ne va pas. Hein. Vous dites simplement... Je suis puissant ou puissante, et ça fait beaucoup de bien. Donc on fait ça dans le tantra. On exprime la puissance aussi. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais il doit sûrement avoir une raison. Oui, que certains hommes, par exemple, peuvent avoir peur d'exprimer vraiment le yang. Certaines femmes peuvent aussi avoir peur d'exprimer vraiment le féminin. Et dans ces deux extrêmes-là, on essaye... d'amener un équilibre. Hein. Donc, le but, c'est d'essayer d'être plus complet. Hein. Et quand vous êtes plus complet, il n'y a plus besoin de demander à l'autre. Alors, à quoi ça vous amène ? Quand vous êtes plus complet, vous attirez des gens qui vous ressemblent, d'autres êtres qui sont plus complets, et à ce moment-là, vous arrêtez de faire le mendiant ou la mendiante de ce qui vous manque. Hein. C'est le bonheur que je suis, viens partager le bonheur que tu es. Idéalement, il peut rester des petits résidus, mais globalement, vous avez une plus grande liberté, vous attirez à vous des gens également qui sont plus libres, et il y a moins de mendicité dans le couple. Hein. Il y a moins de « fais-moi ci pour que je te fasse ça », il y a moins de marchandage, de bricolage dans la relation, et la relation est beaucoup plus stable et solide. Voilà. Alors, j'avais donné un exemple pour un homme qui a peur de sa puissance. Pour une femme, ça peut être une femme qui a peur de dire non parce qu'elle a peur que son non soit interprété comme un rejet. Elle a peur que ça soit « je rejette l'autre » et si je rejette l'autre, il va être en colère, etc. Donc, elle n'ose pas exprimer le yang. À cause de cette peur-là. Hein. Et donc, dans le tantra, elle peut apprendre à dire non pour se respecter sans inclure tout ce marchandage émotionnel qui vient entraver la liberté. Hein. Voilà. Et puis, donc, il y a des structures où on marque le territoire. Hein, et puis, ça permet de savoir dire non et arrêter de faire autant intervenir l'autre dans votre non. Hein, je dis non, pourquoi ? Parce que j'ai envie de dire non, c'est tout. Et si tu le prends pour toi, c'est ton affaire. Et toi aussi, tu as à régler ça pour toi. Voilà, et puis on traite aussi un gros sujet qui est améliorer l'estime de soi-même. Alors, qui se sent concerné par ce sujet ? Bon, il y a des mains qui se lèvent, hein, pour ceux qui écoutent l'enregistrement. Tout le monde pratiquement est concerné par ce sujet. Alors, pourquoi l'estime de nous-mêmes, de soi-même, pourrait être déficiente, hein? Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez dire là, à haute voix. Hein? L'éducation, oui. D'autres idées?
Parce qu'on se juge en permanence.
Parce qu'on se juge en permanence. Ouais, d'autres? Ce qui vous vient, hein?
On se compare.
On se compare. Pourquoi l'estime pourrait être déficiente?
Réussite, mais échec.
Voilà, on se confronte à des échecs, voilà, oui.
Ça revient à au problème de l'enfance, tout ce qui se dit au moment de l'enfance.
On revient au problème de l'enfance, hein, de ce qui s'est dit dans l'enfance, exactement. Voilà, on n'apprend pas à s'aimer, on souligne dans l'éducation les défauts plutôt que les qualités. Super. On peut être perfectionniste, voilà, et donc l'estime, elle est liée à un niveau très haut de réalisation. D'autres idées, même si vous dites des bêtises, ça n'a pas d'importance. Hein. Quelqu'un a une idée basée sur votre propre vécu, hein. Ok, ça pourra venir.
Au travail aussi, continue.
Au travail. Voilà, on peut dévaloriser au travail parce qu'on nous dit « t'as pas été à la hauteur » ou « t'as pas fait ce qu'on a attendu de toi ». Oui, parfaitement. Donc, il y a de multiples raisons, hein. Alors, je commence par les jugements parce que c'est vraiment, on est dans un monde de jugements. Notre cerveau, vous croisez une personne que vous n'avez jamais vue de votre vie. En une seconde, il peut y avoir 100 jugements différents, inconscients, hein, bien sûr. Qui mettent la personne dans des cases. C'est un réflexe, hein, inné. Donc, ces jugements-là peuvent grandement jouer sur votre intime, votre estime personnelle. Je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, je ne suis pas à la hauteur, je suis nul, hein, je me sens minuscule, je ne sais pas aimer, je ne suis pas aimable. Je ne suis pas encore prêt, hein. Un jour je serai prêt, hein. Quand je serai prêt je m'inscrirai à un groupe de tantra, mais je ne suis pas prêt encore là. Donc tous ces jugements là, voilà, on les passe en revue dans le tantra, on essaye de les faire mentir, hein, en les regardant pour ce qu'ils sont, des petites voix, rien de plus. Après il y a les comparaisons, il ou elle est plus évolué que moi, quand je serai à son niveau, alors là ça ira bien pour moi. Si seulement j'étais aussi libre qu'elle ou que lui, hein, mais moi, pauvre de moi, si j'étais riche, si je gagnais au loto, si j'avais son physique, alors là, plus aucun problème. Donc, c'est si, mon bonheur dépend de quelque chose qui est comparé à, de l'extérieur. Après, les conditionnements sont multiples, sont très nombreux. Le prêtre m'a dit que je suis un pécheur, ma mère ou mon père m'ont répété « tu n'arriveras jamais à rien », hein, par exemple, hein, pas forcément pour vous, je l'espère. «
Tu ne peux pas, tu n'es qu'une fille. »
Voilà, ou « tu es une fille, tu ne peux pas », ou « je ne pourrai jamais être heureux avec quelqu'un qui est fumeur ou fumeuse ». Moi, je me conditionne. Hein. Tout ça, c'est des petites voix. Et puis, il y a les multiples peurs. J'ai tellement peur du regard de l'autre que je ne dis pas ce que j'ai envie de dire. Je me laisse hypnotisé par la peur. Si je lui dis que je l'aime, elle va s'enfuir. Hein? Donc j'ai une envie, mais la peur me bloque complètement. J'ai tellement peur d'échouer que je ne fais plus rien. Hein? L'exemple que tu as donné. Si mon compagnon ou ma compagne me quitte, c'est la catastrophe. Et à ce moment-là, je me protège un maximum de cette situation. Donc vous voyez que dans les peurs, je vais me dévaloriser, c'est-à-dire je vais fonctionner à un dixième de ce que je suis parce que je protège quelque chose. Donc dans le tantra, on regarde tout ça avec intégrité, on améliore l'estime de soi-même en s'offrant le cadeau d'être vrai, hein, ce que dans d'autres circonstances on ne fait pas. Dans le métro, on est peut-être moins vrai que dans les groupes de tantra. On s'offre le cadeau d'une liberté additionnelle, ça veut dire que je suis libre et puis dans un groupe j'arrive à dire oui à un pas de plus, hein, parce que je sais que je suis en sécurité et que ça me concerne et ça ne concerne pas les autres, ce pas-là. Et donc, on s'accorde une liberté qui est en fait un cadeau, hein. Et dans Tantra, on dit qu'on est égoïstement positif. Alors, c'est quoi être égoïstement positif? Ça veut dire que je pense à moi quand je m'offre un cadeau, c'est pour aller mieux. Hein. Et donc, avant de penser à l'autre et de m'oublier, je ne m'oublie pas. Je pense à moi, je me développe, je m'offre les cadeaux de cette liberté. Et quand je suis libre, à ce moment-là, je peux m'occuper de laisser rayonner cette liberté. C'est comme ça que l'autre va recevoir de moi. Donc, on commence par nous, dans le Tantra, et on laisse les autres s'abreuver à la source, lorsque ça déborde de nous. C'est ça, être égoïstement positif. En vérité, c'est le seul moyen qui marche, parce que je ne peux rien avoir à offrir si je ne l'ai pas moi-même développé en moi, hein. Si je suis en manque, est-ce que vous voulez recevoir le manque? Ça fait plaisir à personne, hein, de recevoir. Mais recevoir le plein, recevoir, voir la liberté à l'œuvre, ça c'est attirant. C'est magnétique. Donc, moi d'abord. Dans le Tantra, on est égoïstement positif, mais on aide les autres indirectement, pas directement. C'est en se développant soi-même, on aide les autres. Voilà comment on améliore l'estime de nous-mêmes. Moi d'abord. Peut-être dans votre vie vous êtes vous beaucoup sacrifié, et dans le Tantra il n'est pas question de faire quelque chose pour l'autre, faites-le d'abord pour vous, okay. Ça c'est pas une démarche sociale, hein, c'est pas une démarche habituelle non plus, et on essaie de se rappeler que nous sommes la personne la plus importante au monde pour nous, pour notre intériorité, et c'est comme ça qu'on va aider les autres, hein, en se rappelant de ça, en faisant grandir cette image intérieure. Et puis on tente la douceur, comme certains exercices sont extrêmement doux. Certains exercices, vous allez recevoir des cadeaux de douceur. Donc, je suis très bien comme je suis, ça désactive certains jugements. Je suis unique, et c'est ça que j'ai à offrir au monde, ça désactive les comparaisons. Voilà, on se rappelle de choses profondes qui sont vraies à travers certains exercices. Alors aussi, regardez toutes les situations, vous êtes des bourreaux pour vous-même, et puis désamorcez ces situations en disant par exemple ce que les Toltecs disent, je fais toujours de mon mieux, toujours, hein, même quand je fais des choses qui me semblent pas top, je fais de mon mieux à ce moment-là. Donc vous n'êtes plus un bourreau, vous vous acceptez. Hein. C'est toujours vrai. Hein. Même quand vous faites une chose, vous mettez une gifle à votre enfant, eh bien c'était le mieux que vous puissiez faire à ce moment-là, en fonction de l'état émotionnel. S'il y avait mieux, vous l'auriez fait. Et donc, vous apprenez à ne pas juger ça. Hein. Vous ne cautionnez pas la gifle, hein. Vous vous rappelez de ça. Et puis, donc, on se reconnecte à ce puits intérieur qu'on a, qu'on alimente, qu'on nourrit, qu'on nourrit, qu'on nourrit, jusqu'à ce qu'il déborde. Et quand l'eau déborde, ben, tous ceux qui sont autour de moi, qui sont en manque, qui sentent qu'ils ont besoin de ça, eh ben, ils viennent d'eux-mêmes s'abreuver. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi d'abord, je le vaux bien, c'est pas une publicité, hein, mais on passe d'abord parce que on se rappelle de sa valeur. Et puis, quel est mon désir, hein? Quel est mon désir dans la danse? Quel est mon désir de danser? Quand je danse comme j'ai envie, bah, je mets ma valeur en mouvement. Hein? Et donc, je me rappelle de ça. Qu'est-ce que je suis bavard, hein? Voilà, donc, on se rappelle de mettre la priorité sur nos besoins et nos désirs. Hein? Et ces groupes-là sont une façon qui n'a pas d'égal pratiquement ailleurs de faire ses expériences. Parce que c'est le but, hein, et c'est autorisé, et tout le monde joue cette règle du jeu. Voilà, 15 secondes avant le prochain thème, petite respiration, sentez votre état de conscience. Sentez votre énergie. Incluez ce qui s'endort, incluez ce qui se réveille. Incluez ce qui est titillé. Incluez ce qui en a marre et incluez ce qui est curieux d'en savoir plus. Et puis si à un moment vous en avez assez, c'est ok de vous lever et de partir. Hein, c'est parfaitement. Oui, derrière la porte là, derrière toi, si tu veux ouvrir la porte, il y a des... Oui. On va s'arrêter vers 22h15, 22h30 pour faire un exercice en grand groupe. Et à 23h, on va faire une réunion de covoiturage. Et après, on va avoir une petite collation. Donc comme ça, si vous ne savez pas comment rentrer, vous avez déjà votre chauffeur. Avant. Mais 23h, c'est la fin du groupe. Si vous êtes pressé de partir, c'est ok de partir avant. Hein, c'est pas, c'est l'heure prévue, disons. Ceux qui veulent des plaids, hein, vous pouvez en prendre, c'est possible d'en sortir plusieurs. Alors on va parler d'un sujet qui est commun à pratiquement toute l'humanité, où en est mon autonomie affective. Suis-je libre d'aimer et d'être aimé ? Aimer librement, c'est aimer vraiment. Si vous aimez avec des conditions, vous n'aimez pas vraiment. Parce que le jour où ces conditions ne sont plus remplies, vous n'aimez plus. Et ce n'est pas du véritable amour que de dire « Aime-moi, je t'aime si. » En vérité, c'est une sorte de prison. Reste dans la prison et je t'aimerai. Sors de la prison et je t'aimerai plus. Donc, on voit que c'est une façon de maintenir l'autre captif. Alors, en vérité, on fait à peu près tout ça, hein, donc il n'y a pas à se blâmer. Mais c'est intéressant de voir où est l'autonomie affective. Où est la liberté d'aimer l'autre. De l'aimer tel qu'il est, en incluant tout ce qu'il est. Même ses jugements, même ses défauts, et même ses qualités. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'être libre avec mon compagnon, ma compagne, avec mes amis, avec ma famille? Quelle demande de reconnaissance vient perturber ces relations? Je vais formuler inconsciemment qui va dire... dis-moi que j'existe parce que j'ai pas le sentiment d'exister par moi-même quand je suis en face de toi. Et donc cette liberté d'aimer va être perturbée par une demande de reconnaissance. Voilà, c'est une demande qui est commune à pratiquement toute l'humanité. Reconnais-moi, montre-moi que je suis valable. Et donc là, à ce moment-là, vous mettez la valeur dans le pouvoir de l'autre. Alors, l'autonomie affective, ça se traduit aussi quand j'ai peur d'aimer. Si j'ai du mal à m'aimer moi-même, j'aurai pas grand-chose à donner à l'autre. Et donc, la liberté d'aimer, elle peut commencer par la liberté de s'accepter et de s'aimer soi-même. Et donc, on apprend dans le tantra... à renoncer au jugement pour s'aimer davantage. Donc tout est relié. Ça peut passer, le manque d'autonomie affective, ça peut passer par la peur de perdre le contrôle. Ça peut passer par la peur de m'abandonner, ça peut passer par la peur du jugement, du regard de l'autre. Parce que j'ai peur de ça, alors je contrôle les choses et je ne peux pas être libre en contrôlant. Ça peut passer par tous les conditionnements. Une femme ne fait pas ça, un homme ne pense qu'à ça. Ça, c'est des idées, qu'on vous a mises, des images, qu'on vous a mises dans votre tête, qui ne sont pas forcément votre expérience. Ça peut passer par l'éducation. Une femme ne prend pas d'initiative, hein, c'est une éducation qu'on reçoit. Ce qui fait que vous ne vous sentez pas libre d'entreprendre. Un homme est responsable de la sécurité financière du foyer. C'est aussi un conditionnement qui fait que l'homme va tout d'un coup se retrouver avec un poids sur ses épaules énorme et ne va pas se sentir libre d'aimer à cause de ce poids. Donc il y a beaucoup de facteurs qui interagissent à propos de suis-je libre d'aimer ? Suis-je libre ? Est-ce que je me laisse aimer ? Hein ? Est-ce que je suis libre d'être aimé ? Alors on peut dire aussi que la peur du rejet est un facteur important. Hein. Si je m'abandonne complètement à aimer l'autre librement, est-ce que je ne vais pas me faire rejeter ? Hein. Est-ce que je ne vais pas faire peur à l'autre ? Est-ce qu'il ne va pas me rejeter ? Vous voyez que toutes ces peurs et tous ces conditionnements vont interagir dans cette liberté, dans l'expression de cette liberté. Et une des images que je cite souvent qui est assez parlante, c'est « Est-ce que je vais vers l'autre comme un mendiant ?» Donc comme ça, hein, qui se recroqueville, ou comme un empereur, hein. Donc, un mendiant a tout à recevoir de l'autre, demande à l'autre, et il est une sorte de victime. Et un empereur ou une reine, hein, est souverain et donne. Donc, est-ce que dans votre relation à l'autre, vous êtes mendiant ou est-ce que vous êtes empereur ou impératrice, hein? Et donc, ça peut vous donner un exemple de comment vous positionnez votre énergie. Voilà, donc toutes les peurs et toutes les limitations que j'ai citées là sont des endroits où vous pouvez faire grandir votre liberté en arrêtant de mettre autant d'enjeux sur l'autre. Et le tantra est un cadre extrêmement important pour revenir à soi et laisser l'enjeu de l'autre avec l'autre de côté. Donc vous facilitez vos désirs, vous facilitez votre envie d'aller de l'avant avec les exercices, hein, qui n'incluent pas l'enjeu avec l'autre, qui n'incluent pas le défi avec l'autre. Et puis, vous vous donnez des autorisations. Quand vous vous donnez des autorisations, par exemple, j'ai envie d'oser ça, si vous le faites réellement, alors votre capacité d'aimer grandit parce que vous vous êtes fait un cadeau. Hein. Tout est relié. Vous autorisez à dire oui à un endroit où vous disiez non, c'est une marque d'amour de vous à vous. Hein. C'est agrandir votre espace d'amour, d'estime personnelle. Et puis rappelez-vous, dans un groupe de tantra, on joue tous la même règle du jeu. Et ça favorise l'idée de regarder ce qui limite l'autonomie affective, ce qui limite la liberté d'aimer. Hein, parce que celui ou celle qui est en face de vous fait exactement la même recherche que vous, devenir plus libre. Donc, on peut y aller vraiment. Et puis, honorer le flux du vivant. Honorer le flux du vivant, ça veut dire, comme je l'ai déjà dit, dire des vrais oui qui vous respectent, dire des vrais non qui vous respectent. Pouvoir marquer votre territoire quand c'est nécessaire, tout ça, ça peut vous permettre de grandir dans la sensation d'être souverain en vous. Si vous êtes mendiant, vous allez sans arrêt attendre que l'autre fasse quelque chose pour vous. Alors que dans le tantra, on essaie de faire grandir tout ce qui est de l'ordre de votre puissance personnelle, hein, ce qui grandit en conscience, ce qui grandit en liberté, et ce qui n'a pas besoin de l'autre, mais qui se réjouit d'être avec l'autre. Hein, c'est là la différence. Donc, être dans le flux du vivant, c'est réellement pouvoir s'autoriser à respecter ses désirs. Pouvoir quoi que la vie vous propose, l'inclure. Et puis dans un groupe de tantra, lorsqu'une émotion est là, être avec, hein, ne pas la, la mettre de côté, l'expérimenter. Voilà, donc on expérimente les choses qui contractent notre énergie, on le voit, et on expérimente aussi les choses qui font pétiller notre énergie, et on donne du champ à ces deux-là. Et quand je vois la peur à l'œuvre, je suis dans le vivant qui regarde la peur. Quand je fais pétiller le désir ou l'envie, je suis dans le vivant qui circule et qui s'exprime. Donc c'est dans les deux cas, je fais un avec qui je suis. C'est ça, hein, être dans le flux du vivant. Parfois nous résistons, et souvent c'est la résistance qui fait que c'est difficile. Et parfois nous autorisons, et c'est la fluidité qui fait que nous passons à autre chose. Alors pourquoi être dans le flux du vivant? Pourquoi tout inclure, hein? Parce que parfois la tentation est forte de ne pas inclure les choses difficiles. Parce que la vie est une classe où chaque chose difficile est une leçon. Si vous acceptez que la chose difficile a quelque chose à vous apprendre, cette chose difficile-là, si vous l'incluez, cette chose difficile-là ne se représentera plus parce que vous avez appris la leçon. Et si vous rejetez cette chose difficile en disant « je veux pas de cette colère, je veux pas de cette réactivité », alors elle n'a pas pu vous donner ce message, et donc vous allez redoubler, hein, vous allez refaire la même classe. C'est-à-dire que la vie va vous procurer une autre situation, un autre partenaire exactement similaire pour que vous appreniez cette leçon-là. Et quand vous incluez tout ce qui vous arrive, ben vous... vous apprenez très vite les leçons que vous avez besoin d'apprendre. Donc nous sommes sans arrêt en train d'apprendre, et parfois ça se passe avec ce que nous appelons être négatif. Et être dans le flux du vivant, ça veut dire qu'il n'y a pas réellement de négatif. Ce que nous appelons négatif est une manière d'apprendre des choses qui ne sont pas encore apprises pour nous. Je vous donnais l'exemple du jugement tout à l'heure. Quelqu'un me dit « tu es un idiot parfait hein. ». Si je n'ai pas appris cette leçon que je suis quelqu'un de valable, alors je vais plonger dans la déprime. Si j'ai appris cette leçon, parce que j'ai plongé plusieurs fois dans la déprime avant, hein, et en fait je me dis « mais non en fait, c'est pas lui qui sait qui je suis, c'est moi qui sais qui je suis ». Et moi, je suis quelqu'un de valable, parce que je le sais, parce que toutes mes expériences ont montré que j'ai une valeur. Hein. Alors, ce « tu es idiot » va ricocher, parce que il va ricocher sur quoi? Sur votre propre idée de votre valeur. Vous savez qui vous êtes, et l'autre n'est pas de nature. Donc, j'ai appris la leçon. Hein. Et je suis guéri. Guéri de... le bouton sur lequel il pousse qui me fait plonger dans la déprime. Voilà pourquoi nous essayons d'honorer le flux du vivant, hein, d'apprendre ce que la vie a à nous apprendre. Et puis, quoi que ce soit qui se passe est utile, hein, pour nous. C'est des leçons.
Dans la relation, c'est pas aussi évident parce que justement, ce genre de situation peut souvent se développer que le partenaire traite
Oui.
Dans une relation, on est très emprisonné. Et justement, on peut vraiment arriver à appliquer ce qu'on apprend en tantra dans la relation. On arrive à justement.
Oui, je répète la question pour le micro. On peut, dans une relation, à force d'entendre tu es un idiot de façon répétée, finir par croire que c'est vrai. Et qu'est-ce qui peut, dans le tantra, nous aider à en sortir? Dans le tantra, tu peux faire du tantra en dehors de la relation, c'est-à-dire déjà venir sans ton partenaire, parce que l'endroit où il te dit « tu es idiote » et que tu le crois, t'appartient. Cet endroit-là, pourquoi tu le crois, ça t'appartient. Parce que moi, si tu me le dis, je ne le croirais pas. Je te dirais, c'est ton opinion. Tu vois, comme je laisse ton énergie à distance. Je ne laisse pas entrer en moi. J'ai une sorte d'armure. C'est quoi cette armure? C'est la valeur de mon estime personnelle. Et c'est ça qu'on fait grandir dans le tantra. Et donc, tu viens sans ton partenaire pour faire grandir ton estime personnelle. Tu te fais des cadeaux. Tu dis, je le vaux bien. Tu dis, moi d'abord. Tu reçois tout ce que tu as besoin de recevoir. Et quand tu deviens de plus en plus une reine, une impératrice, que tu sens ton pouvoir d'exister, le « tu es idiote » n'a plus d'effet sur toi, ou beaucoup moins d'effet. Ou alors, tu peux lui dire « tu as le droit de penser ça de moi, je te donne ce droit-là, mais moi j'ai une autre idée de ma valeur. » Et là, je ne pars pas dans la blessure, hein, je m'érige. Quand je pars dans la blessure, je suis la mendiante. Ça veut dire, oh, tu m'as dit ça, t'aurais pas dû dire ça, t'as vu comment tu m'as rendu. Voilà, donc à tout moment, je me dresse, ou à tout moment, je m'effondre. Hein. Et dans le tantra, on apprend à se dresser, c'est-à-dire à reconnaître le vivant, hein, en augmentant son estime personnelle. Si l'estime est en berne, venez tout seul, hein, ne venez pas avec l'autre, quand vous êtes à deux. Parce que les problèmes relationnels viennent souvent de « j'ai une valeur de moi au ras des pâquerettes ». Quoi que dise l'autre, je le crois. Pourquoi? Parce que je crois ça de moi aussi. Hein? Si mon estime est à la hauteur du mont Everest, plus rien ne m'atteint. Si vous dites « espèce d'imbécile » à Bouddha, si vous étiez contemporain de Bouddha, quelle aurait été la réaction de Bouddha, d'après vous? Ça ne l'aurait pas touché. Qui d'autre a une idée? Quelle aurait été la réaction de Bouddha? Un être éveillé, hein?
Il aurait souri.
Et moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il aurait éclaté de rire. Parce que pouvoir penser ça de lui, alors qu'il connaît la puissance d'un être éveillé, c'est carrément inimaginable. Donc ça le fait éclater de rire. Pouvez-vous imaginer que vous éclatez de rire quand on vous traite d'imbécile, hein? Ça, c'est la liberté totale. Hein? C'est lorsque vous avez l'estime de vous-même gonflée à bloc. Et on s'entraîne. C'est à ça qu'on s'entraîne, hein, entre autres. Quand on est libre, c'est aussi l'estime qui en profite. J'avais quelque chose en tête à vous dire. Voilà, Jésus, par exemple, tendait l'autre joue, hein, parce que pour lui, que ce soit une joue ou deux joues, ça n'a aucune importance pour lui. J'avais une image en tête qui est partie, ça n'a pas d'importance. Voilà, puis en dernier, avec ça, on s'arrêtera, et puis il pourrait y avoir un petit moment de questions, si nécessaire. On va aborder la relation avec le désir dans le tantra. Le désir, c'est toujours au sens large qu'on l'aborde dans le tantra. Hein. Il peut s'exprimer par le désir sous forme de curiosité, d'expérience. Hein. J'ai le désir d'aller faire un groupe de tantra. J'ai le désir de grandir dans ma vie. J'ai le désir d'évoluer. Et lorsque l'on expérimente le désir à travers la sensualité ou l'énergie sexuelle, qui sont des domaines très proches, alors c'est de l'énergie vitale dont il est question. Et donc comme dans le tantra, on ne laisse rien de côté, on inclut l'énergie sexuelle. Pourquoi? Parce que si on ne l'inclut pas, on n'est pas entier, bien sûr. Et comme ça représente une énergie extrêmement vaste et extrêmement puissante en nous, si on laisse ça de côté, il nous reste très peu d'énergie pour vraiment vivre. Si on n'honore pas cette énergie-là. Alors, l'honorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire la reconnaître en tant qu'énergie puissante. La reconnaître en tant qu'énergie de vie qui vous motive pour vivre, hein, qui vous attire. Mais sentez la puissance de l'énergie sexuelle lorsque vous rencontrez pour la première fois un homme ou une femme qui vous attire. C'est énorme. Ça chamboule tout votre système émotionnel. Sentez l'attirance énorme que le sexe d'un homme et le sexe d'une femme ont à se rapprocher. C'est énorme. Alors Osho dit que cette énergie, à la puissance d'une bombe atomique au sens propre, si on pouvait l'autoriser réellement. Mais nous, on en utilise vraiment, vraiment très peu. Donc on essaie de réhabiliter cette énergie. Pourquoi ? Parce qu'elle est jugée, parce qu'elle est accablée de honte. Hein. Regardez l'Église, la position de l'Église à propos de ça. Je ne suis pas en train de juger l'Église, mais voilà, c'est réellement une partie de l'existence qui n'est pas du tout abordée. Hein. Regardez la position de la société. Hein. C'est quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose qui est sale, honteux. Mais regardez comment un enfant innocent peut avoir un regard tout à fait simple avec ça et ne pas entrer dans le jugement avec ça. Donc nous, dans Tantra, on l'inclut et on essaye d'abord d'enlever les enjeux. Alors l'enjeu avec la sexualité, c'est « je fais ça pour faire un couple avec toi ». Il n'y a pas cet enjeu dans Tantra, hein. On l'enlève d'emblée. « Je fais ça pour avoir une sexualité avec toi ». Il n'y a pas non plus d'acte sexuel, on l'enlève cet enjeu. On essaye de se rappeler que ce qu'on veut, c'est sentir cette énergie pétiller en nous, trouver sa beauté, trouver sa simplicité, trouver sa joie, et puis c'est de nous à nous. Et l'autre est un support pour que ça se passe en nous. C'est pour ça qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Donc on en fait une fête, on le célèbre, on le glorifie, on le joue, on lui donne ses lettres de noblesse, et surtout on désapprend plein de choses à propos de cette énergie-là. Donc par exemple, on fait des exercices les yeux bandés, et puis on laisse le corps s'exprimer, recevoir, donner, et puis on n'est pas en train de dire avec celui-là oui, avec celle-là non. Juste, est-ce que c'est bon pour moi ? Voilà. Ça peut vous faire grandir, parce que à ce moment-là, vous incluez que cette énergie-là, le corps en raffole. Hein. Est-ce que quelqu'un pense autrement que le corps raffole de la sensualité dans cette pièce ? Vous pouvez dire ouvertement. Hein. La plupart des gens sont d'accord avec le fait que le corps adore la sensualité. Ce qui pose problème, c'est les barrages mentaux. Hein. C'est pour ça que dans Tantra, on met un bandeau, pour enlever les jugements. Alors moi, il m'est arrivé il y a un petit peu plus que mon réveil, là, d'il y a 13 ans, un peu plus tard que ça, il m'est arrivé de faire une expérience extraordinaire, mais alors magnifique, les yeux bandés, avec une personne que jamais, 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 je n'aurais choisi, les yeux ouverts. Et je me suis dit, oh là là, la vie, quelle couche de jugement. Il y a du travail. Donc on met le bandeau pour bander les jugements, hein, pour barrer la route au jugement. C'est pour ça que je vous ai demandé d'amener un bandeau, et c'est pour ça que vous allez voir par vous-même qu'est-ce qui se passe quand les yeux n'arrêtent de juger. Il y a énormément de jugements qui passent par les yeux. Et donc, on va aussi expérimenter la sensualité, mais d'une manière assez légère. La sensualité, si on la définit de manière générale, c'est la sexualité de chaque cellule. Parce que chaque cellule, elle a un chromosome sexuel. Hein, elle est X ou elle est Y. Chaque cellule peut exprimer le féminin ou peut exprimer le masculin. En vous, hein. Donc toutes les cellules sont sexuelles et tout le corps est sexuel. Donc on n'a pas une idée dans le tantra de l'énergie sexuelle confinée aux organes sexuels ou même aux zones du corps qui sont plus sexuelles que d'autres. Tout le corps abrite, héberge la sensualité parce que tout le corps est sensuel, hein, tout simplement. La peau ressent du plaisir à n'importe quel endroit de la peau, on peut ressentir du plaisir. Et ce plaisir est sensuel parce qu'il s'exprime par les sens, par le sens du toucher. D'accord ? Et le sensuel est en rapport avec le sexuel, mais c'est le corps en entier, tout simplement. Alors pourquoi on fait ça ? Pour laisser cette énergie circuler dans notre corps au lieu de la limiter, de fermer le robinet. On passe notre vie à fermer le robinet de l'énergie sexuelle au lieu de l'ouvrir et de voir quel délice c'est lorsque c'est ouvert. mais on peut le faire dans le tantra parce qu'il n'y a pas cet enjeu extrêmement, ce défi extrêmement grand qu'est le couple. Hein. Dans le tantra, on le fait pour soi, on ne le fait pas pour créer quelque chose, on ne le fait pas pour attirer l'autre, on le fait pour sentir à quel point en vous-même c'est bon. Hein. Et c'est pour ça qu'avec le bandeau, vous êtes ramené à vous-même beaucoup plus facilement. Voilà, c'était le dernier point. C'est pas systématique, on n'explore pas l'énergie sexuelle dans tous les groupes de tantra. Je tiens à dire que c'est un moyen et non une fin. C'est pour ça que j'ai dit au début que c'est quelque chose de faux que de ramener le tantra à la sexualité. C'est simplement inclure à nouveau une énergie qui souvent est mise de côté, mais qui recèle énormément de liberté, hein, quand vous l'autorisez réellement. Voilà, une petite phase de questions-réponses, s'il y en a. Il n'y a pas de questions bêtes, n'importe quelle question que vous ayez, essayez de ne pas la censurer, parce que pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être très important, cette réponse, même si pour vous, ça paraît évident ou insignifiant. Voilà, ça va durer 10 minutes, 15 minutes, peut-être moins, s'il n'y a pas de questions. Prends le temps de respirer un peu, voilà. Sentez qu'est-ce qui a été titillé en vous, quelles choses sont nouvelles pour vous, qui sont questionnantes. Alors, est-ce que à travers le tantra, il y a un espoir de rencontrer son âme sœur ou quelqu'un qui peut, avec qui on a envie d'harmonie. Alors moi, je dirais, ne viens pas au tantra pour ça. Laisse l'espoir de côté. C'est-à-dire que tu viens t'occuper de toi et lorsque tu es assez libre, tous ceux qui sont touchés par ta liberté seront magnétisés par ta liberté. Parce que si on transforme le tantra en groupe de relations, en groupe de rencontres, alors on se trompe d'enjeu.
Alors, je ne veux pas dire que c'est dans le cadre du tantra, mais justement ça peut permettre par la suite de rencontrer la personne.
Voilà, est-ce que ça peut permettre par la suite de rencontrer une personne en infinité ? Ah bien sûr que oui. Alors, c'est ce que je disais aussi, c'est-à-dire que quand tu deviens libre, tu vas attirer plein de gens qui sont attirés par, comme des papillons vers la lumière. Hein, parce que la liberté, c'est attirant. Le manque ne l'est pas. Tout le monde sait que le manque n'est pas attirant. Donc, occupe-toi de ta liberté. Et oui, tu vas même avoir le choix. Tu vas dire, toi non, suivant, toi non. Ah oui, toi oui, d'accord. Tu vas avoir le choix. L'univers t'envoie plein de candidats. Hein, et puis tu choisis L, XL, XXL, S, toi viens, ouais. T'as même le choix, oui. Et à un moment donné, tu reconnais la personne parce que ton discernement grandit quand ta liberté grandit. Donc, ne faites pas l'erreur que certains font de venir pour trouver un partenaire. Ce n'est pas le but. Et en plus, vous faites les choses à l'envers et vous mettez l'enjeu au lieu de lâcher l'enjeu et de trouver ce qui en vous aimerait être plus libre. L'enjeu, c'est l'inverse d'être libre, hein, c'est la prison. Oui ? Ça gratte la tête.
Et c'est ça, c'est vraiment ce discernement. Savoir effectivement sentir.
Oui ?
Est-ce qu'on peut faire du tantra pour enlever une souffrance qu'on n'arrive pas à enlever tout seul ?
Est-ce qu'on peut faire du tantra pour enlever une souffrance qu'on n'arrive pas à enlever tout seul ? Oui, et pour certaines souffrances, il y a besoin de la thérapie. Hein. Cependant, Toutes les souffrances viennent de restreindre le flux du vivant, hein, viennent d'une peur, d'une émotion, d'un blocage qui peut s'être passé très tôt dans la vie. Donc chaque fois que je souffre, c'est qu'à un moment donné, j'ai retenu, j'ai bloqué l'énergie. Et donc dans ton temps, on apprend à refaire circuler l'énergie, on réapprend à être libre, et donc ce qui était bloqué à cause, ce qui souffrait à cause de ce blocage, peut se libérer. Mais si le blocage est inconscient, très profond, il peut avoir besoin d'une thérapie pour l'amener à la conscience et ensuite faire du tantra. Ça dépend de la profondeur de la blessure. Mais ça n'empêche pas d'essayer. Hein. Généralement, moi, je vois dans les stages ce qui nécessiterait d'être approfondi en thérapie. Je dirais que quand quelqu'un me dit « j'ai ça comme problème dans ma vie, est-ce que... le tantra peut m'aider. Moi, je dirais, si votre énergie circule, il n'y a plus aucun problème. Il n'y en a plus aucun. Donc, venez faire circuler votre énergie. Et ensuite, on voit.
Hein. Quand il pose ces questions-là, je m'attendais à ce que tu lui dises, tu lui parles de la respiration active.
Oui. Donc, tu t'attendais à ce que je lui parle de la respiration active. C'est un autre domaine. En vérité, la circulation de l'énergie, c'est la même chose dans toutes les disciplines. Dès que l'énergie circule, les choses se circulent davantage. La respiration active, je n'en parle pas ce soir parce que c'est un domaine qui est plus spécifique que le tantra. Ça n'implique pas, ça n'est pas aussi impliquant en termes d'interaction avec les autres. Donc ça vise aussi à faire circuler l'énergie, ça peut répondre aussi à des problèmes. Mais je le sépare quand même du tantra. Dans le tantra, on vient s'occuper de soi avec d'autres en face, donc c'est quand même avec une dose d'implication plus grande. Merci quand même pour l'avoir posé. D'autres ? Oui, alors c'est quoi la différence entre thérapie et du développement personnel? Qu'est-ce qui va plus aider la souffrance qu'autre chose à se libérer de la souffrance? Alors, dans une thérapie, c'est un face-à-face entre un thérapeute et une personne. Donc, moi, quand j'accueille des personnes, je les guide personnellement ou je choisis des exercices ou des choses à leur dire qui sont très spécifiques à leur souffrance. Alors, dans un groupe, je ne peux pas aider chacun personnellement autant. Bien sûr, je réponds à chacun personnellement, mais je vais adapter un exercice en thérapie pour une personne parce que c'est cette souffrance-là et pas une autre. Hein. Alors que dans le groupe, il y a un exercice pour tout le monde. Certains vont y raisonner davantage et d'autres moins. Pour certains, il va avoir un effet énorme et pour d'autres, rien. Donc, c'est beaucoup plus spécifique, la thérapie. Mais sinon, c'est la même chose. C'est une sorte de guidance. Hein, moi, je les encourage à dire oui aux endroits où ça dit non à l'intérieur. Mais je le fais dans les séances individuelles, j'utilise la méditation active. Donc, c'est corporel. Le corps, voilà. Donc, il y a certaines méditations qui utilisent la respiration. C'est plus adapté pour certaines personnes. D'autres qui utilisent les secousses. C'est plus adapté pour d'autres. Donc, je choisis hein, un peu plus les outils. Merci, c'était une bonne question. D'autres ?
Est-ce que ça veut dire que ce qu'on vit dans l'atelier, sur les ateliers hebdo, ça ?
Il y a plein d'ateliers différents.
Alors, d'accord.
Est-ce que ce sont des ateliers hebdo ?
Voilà. Le vise, ce que j'ai compris, des ateliers hebdo, soit à Bagnolet, non, soit à Romainville, soit rue de Bagnolet dans le 20e.
Oui.
Voilà.
Initiation, ce sont les soirées d'initiation, celles dont tu parles.
Hebdomadaires ?
Pas forcément, il y en a peut-être deux par mois.
Ah, d'accord, ok. Ce que je voulais comprendre, c'est que là, du coup, c'est du collectif, et est-ce que, justement, tu peux identifier une problématique qui va nécessiter des consultations individuelles pendant un petit temps ?
Alors, est-ce que dans un groupe collectif de 3 heures, je peux identifier quelque chose qui va nécessiter une consultation individuelle? Disons que je peux le pressentir, mais peut-être que la personne qui vit ça aura besoin de plusieurs séances pour vraiment sentir qu'elle n'arrive pas à dépasser ce blocage-là dans les groupes. Hein. Et c'est préférable que ce soit la personne qui vienne à moi plutôt que moi, je suis au service. C'est-à-dire que si une personne ne demande pas de l'aide, je ne vais pas proposer de l'aide parce que c'est beaucoup plus efficace quand la personne demande de l'aide. Oui.
Quelle est la différence ou la différence entre les soirées d'initiation que tu évoquais et celle-ci, celle de ce soir?
La différence entre les soirées d'initiation et celle de ce soir, alors une soirée d'initiation, il y a 2 exercices, ça dure 3 heures ou 4 heures, il y a toujours 2 exercices. Ces exercices vont dans une implication grandissante, donc ils sont progressifs. Ce soir, on va juste avoir un apéritif, c'est-à-dire c'est une sorte de goût de ce que ça fait d'être dans une structure de tantra. C'est encore plus léger qu'une soirée tantra d'initiation, parce que ça se veut abordable par tous, hein, puisque par nature, les gens qui sont là ne savent pas s'ils veulent essayer ou pas le tantra. Donc ça, c'est l'apéritif qui donne envie ou pas de passer à table. Donc ce que je vous ai lu, c'est le menu. Et puis, ce qu'on va faire, c'est l'apéritif, hein, le petit exercice. Ça va, on va goûter un petit peu. Et puis après, il y a le plat principal qui est de quelle manière, dans quel groupe vous voulez vous insérer. Alors, je vais répondre à une question qui est souvent posée, mais qui n'a pas été posée aujourd'hui. Quel est le contenu des stages de tantra? Et comment on travaille, hein, vraiment, avec des outils, on travaille dans les stages de tantra. Alors, dans les exercices, ça peut inclure des danses qui sont lentes ou rapides, comme on a fait déjà pour démarrer. Ça peut inclure des percussions africaines, ça peut inclure la respiration ou le souffle. Ça peut inclure des mouvements du corps, ça peut inclure du massage, ça peut inclure des exercices incluant la sensualité. Le partage de paroles, ça peut inclure un espace de témoignage, donc c'est verbal aussi, l'exploration des polarités masculines et féminines, l'exploration des mouvements d'énergie dans le corps, la méditation, le recentrage, et ça peut inclure aussi des surprises, c'est-à-dire des choses que je ne vous ai pas dites. Et puis selon le moment où on va amené à travailler en tantra, on pourra le faire les yeux bandés, on pourra le faire les yeux ouverts, on pourra le faire seul, on pourra le faire entre hommes et femmes, on pourra le faire en petits groupes, on pourra le faire en groupe d'hommes séparément et femmes séparément, ou on pourra le faire en grand groupe. Ça, c'est pour les types de structures. Chaque fois qu'on fait un groupe de tantra, ça commence par un groupe de partage, c'est-à-dire chacun dit son ressenti avant de commencer, et ça se termine par un retour d'expérience. Comment je me sens en repartant, hein, qu'est-ce que j'ai vécu d'important pour moi? Quand on est ici à Romainville, c'est géré en termes de nourriture et d'organisation, et on mène une vie collective, donc chacun collabore, mais pour tout ce qui est pratique, hein. Et puis quand vous êtes ici, le prix qui est annoncé inclut l'hébergement en salle de travail, c'est-à-dire qu'il y a des matelas et puis on dort dans la pièce, et il y a aussi 2 chambres là-haut où il y a un peu plus d'intimité qui sont des options supplémentaires d'hébergement. La plupart des stages résidentiels sont ici, mais il y en a d'autres qui se passent à l'extérieur, et dans ce cas souvent c'est une pension complète en plus de l'animation proprement dite. Vous réglez à la fois votre chambre et puis les repas séparément du reste. Pour les couples, ça se passe toujours à l'extérieur parce que je n'ai pas assez de chambres pour accueillir 5-6 couples. J'ai seulement 3 chambres ici. Donc ça se passe toujours dans un lieu extérieur. D'autres questions? Une dernière question? Voilà, sentez votre énergie au bout de cette conférence, presque 2 heures, peut-être même un peu plus. Sentez si c'est très dans le mental ou si il y a quand même quelque chose qui se développe à l'intérieur. Sentez si vous avez appris quelque chose ou ça a éveillé une curiosité en vous. Quand vous sentez, vous faites déjà du tantra. Hein. Parce que tout ce dont j'ai parlé, il n'y a pas une seule seconde de tantra, parce qu'il n'y a pas une seule seconde de vécu. Le tantra, c'est seulement l'expérience. Mais c'est utile de donner les directions que j'ai données. Hein. Mais ce n'est pas du tantra, ce que j'ai dit. Hein. C'est le menu. Hein. Je vous ai lu le menu. Et maintenant, on va goûter un petit peu plus à la proposition du tantra qui passe beaucoup plus par le corps. Pourquoi le corps? Parce que le corps a une intelligence que le mental essaye de brider. Mais lorsque on bande les yeux, cette intelligence peut se révéler beaucoup plus puissante que la plupart des gens le pensent. Voilà, c'est la fin de l'enregistrement. Merci aux nombreuses personnes qui se sont jointes à nous, qui ont formé un groupe de plus en plus grand, qui écoutent en ce moment, en même temps que chacun d'entre nous.